Il me faut maintenant introduire le deuxième conférencier, mon collègue Pierre-Michel Menger, donc, qui est à la fois professeur au Collège de France et aussi qui enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales. Et il va nous donner une perspective, cette fois différente, sous un angle différent, c'est-à-dire qu'il va nous montrer comment la recherche en tant que telle peut aussi être l'objet d'une recherche et son point de vue, qu'est-ce qu'il faut dire, sociologique, va nous donner des éclairages tout à fait intéressants. Pierre-Michel, je te laisse la parole.
Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner tout de suite le menu de ce que je vais dire, qui sera ponctué beaucoup d'informations empiriques, donc peut-être que je n'aurai pas le temps de détailler tout ce qui apparaîtra sur les diapositives, mais je suis intrigué, et voilà le plan, intrigué par ce développement de la recherche sur elle-même, qui est évidemment un grand sujet, parce qu'on aimerait savoir comment réduire un peu l'incertitude sur ce qui va arriver et augmenter un peu le bénéfice de la curiosité dont a parlé Serge. C'est un jeu, est-ce qu'on peut le modifier en s'étudiant et en étudiant la production scientifique et comment est-ce qu'elle se construit, s'accumule, se dissipe. Voilà le thème général. Alors, le premier sujet que je voudrais traiter, c'est ce développement de la science et l'introduction à la science de la science. C'est une discipline qui s'est constituée assez interdisciplinaire, qui a deux noms, la scientométrie et la bibliométrie, et elle a des dates de création. Ici, je vous fais apparaître la communication qui avait été faite par Derek de Solla Price, qui est un peu l'inventeur de la scientométrie avec son collègue qui avait produit des travaux de bibliométrie 10 ans avant, Eugène Garfield, celui qui est responsable de la grande création de bases de données, d'analyse de citations. Derek de Solla Price donnait la conférence inaugurale de la Fondation pour la science de la science en 1965, et son exposé c'était « Scientific Foundation of Science Policy ». Donc, on voulait chercher des fondements non seulement à la science, mais aussi à la politique scientifique, pour éviter l'arbitraire ou bien aussi augmenter l'efficacité. Notre collègue Pierre Bourdieu a donné ici même son dernier cours du Collège de France en 2000-2001 sur le thème « Science de la science ». Vous voyez, ce terme circule, et « réflexivité ». Son but, alors que de Solla Price voulait étudier, il mentionnait dans son introduction, il étudiait les carrières, la démographie, par exemple le risque de pénurie de scientifiques, le problème des ressources à engager, les inégalités de réussite, je vais y revenir, et les stratifications de la science par appariement sélectif. Vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire tout à l'heure. Ce qu'on appelle aussi les collèges invisibles, les collègues qui communiquent entre eux, mais pas n'importe comment. Et Pierre Bourdieu, lui, s'intéressait à ce qu'il appelait les conditions historiques de production des vérités transhistoriques. Comment est-ce que la science qui est enracinée dans un contexte peut produire des vérités qui durent et qui transcendent ce contexte. Il discutait Merton, le grand sociologue des sciences. Il insistait sur les questions de compétition, sur le contrôle évaluatif des scientifiques par la communauté de leurs pairs et sur la structuration de cette compétition dans ce qu'il appelait un champ scientifique. La dernière source que je voudrais utiliser aussi, c'est pour introduire, c'est cet article de 2018 dans Science. Beaucoup d'articles que je vais citer sont publiés dans Science ou Nature, dont un des auteurs figure dans la salle et vous parlera demain, c'est Paula Stéphane. Science of Science, c'est un bilan extrêmement intéressant que je vous recommande de lire, avec toute une collection d'auteurs, Fortunato et d'autres, qui viennent de disciplines différentes, j'y reviendrai, qui établit ce que a produit, en quelque sorte, l'histoire qui s'est déroulée depuis ce moment-là jusqu'en 2018. Et là, il est question, à partir de données bibliométriques, de savoir ce que c'est que la dynamique des idées, la sélection des problèmes, la nouveauté. Grand sujet, est-ce qu'on peut la détecter et la prédire, la structure des équipes, les dynamiques de citation. Juste une précision de vocabulaire, Scientométrie, dans une définition reçue, c'est la mesure quantitative de l'ensemble des activités scientifiques, toutes disciplines confondues, mais aussi séparables, bien sûr. Et la mesure concerne les données sur aussi bien les investissements, les personnels scientifiques, mais aussi la production d'articles et de brevets. Et la bibliométrie est un sous-ensemble, si vous voulez. C'est l'ensemble qui porte uniquement sur l'analyse de la production scientifique. Les articles de revue, les livres, les thèses, les rapports, les notes de recherche. Mais il faut dire aussi que les données qui sont les plus aisées à recueillir et à mettre en base de données longues ou très longues sont des données sur les articles de revues scientifiques et sur leur production et sur leur valeur. Alors, il faudra comprendre que le mot valeur que j'utiliserai, c'est leur valeur d'usage, c'est-à-dire est-ce que c'est cité ou non ? Est-ce que les scientifiques se les approprient pour toutes sortes de raisons, notamment pour les incorporer dans leur propre travail ? Ce qu'il faut aussi noter, et c'est un point évidemment essentiel, c'est que c'est un monde, Serge a beaucoup cité des noms propres, ils émergent d'une quantité énorme de connaissances produites et échangées, et il y a une très grande inégalité dans les sciences. Il y a beaucoup de scientifiques, mais beaucoup moins qui publient, beaucoup, et encore moins dont les travaux sont très cités. Et ces éléments-là remontent à des travaux, par exemple, de Lotka en 1926 et qui ont été confirmés ensuite par celui qui a publié ce texte, Derek de Solaprise. Cet écart de réussite et de chance de réussite tient à la compétition entre les scientifiques, on parlait Bourdieu, et aussi à la nature incertaine du travail de production de connaissances nouvelles qui ait de la valeur, c'est-à-dire qui soit utilisé par les scientifiques eux-mêmes, parmi la quantité considérable de travaux publiés. Mais ça tient aussi à l'action d'un mécanisme que Merton avait mis en évidence, le mécanisme de l'avantage cumulatif, c'est-à-dire, on l'a appelé aussi d'ailleurs l'attachement préférentiel, c'est plus poétique, dans l'approche en termes de réseau, ou encore l'effet Mathieu, c'est Merton qui l'a appelé ainsi, d'après la parabole de l'Évangile, sur les talents. Les scientifiques qui se font un nom et une réputation pour leurs travaux reçoivent plus d'attention, de reconnaissance et de récompense que des scientifiques de moindre notoriété et, ajoutait Merton, ceci à contribution plus ou moins comparable. Cette précision, évidemment, après à contribution plus ou moins comparable, elle intrigue parce qu'elle paraît saper l'idéal méritocratique de la juste récompense dans une juste compétition. L'inégalité de réussite et de performance et les bénéfices cumulatifs qui peuvent amplifier cette inégalité conduisent évidemment à porter l'attention sur trois problèmes. Premièrement, comment identifier les connaissances qui émergent pour leur valeur d'originalité ou leur apport au développement de la science. Et donc, il faut des bases de données de toutes les publications et aussi de sa manière dont elles sont utilisées, c'est-à-dire citées, pour comprendre comment travaille une communauté de producteurs de sciences qui sont à la fois producteurs, mais aussi consommateurs de la production d'autrui pour faire avancer leurs recherches et pour vérifier ce que vaut telle ou telle découverte, quel est son potentiel pour trouver des idées nouvelles, de nouveaux problèmes, des méthodes originales. Deuxième point et deuxième problème, c'est l'intérêt de la scientométrie. Elle-même, il se porte sur les produits de la science, les articles, et sur leur qualité plus ou moins élevée, je veux dire leur utilisation sélective par les milieux scientifiques. Et donc, elle voit les scientifiques comme des individus à partir de ce qu'ils publient et qui sont affiliés à telle ou telle université, laboratoire, qui travaille en collaboration avec tel autre scientifique. À partir de ces données, la question est, quels sont donc ces facteurs de réussite dans l'entreprise incertaine de la recherche ? On ne peut pas empêcher les scientifiques de s'interroger sur les conditions de réussite et de découverte, malgré le caractère heureusement incertain de la situation et peut-être en partie indéterministe de la situation. Et donc, comment aussi détecter les idées et les auteurs qui sont prometteurs ? Et comment attirer, ça c'est une autre grande question qui agite beaucoup le monde de la science, comment attirer les meilleurs chercheurs dans des équipes. Donc l'information, c'est vrai, devient disponible à travers ces bases de données sur les performances, les valeurs des individus, des articles, leur citabilité, Voilà, ça c'est une première approche. Mais il y a une autre approche dans la recherche sur la recherche qui part des individus eux-mêmes, et donc on étudie pourquoi ils se sont orientés vers les métiers de la science, quels sont aussi les systèmes et les besoins de formation et leurs performances, les systèmes de motivation, ce qu'on pourrait appeler les soft skills des scientifiques, la passion, la persévérance, la résilience, ça fait l'objet de beaucoup de travaux, la créativité qui est une sorte de boîte noire, la structure de la compétition, évidemment, les conditions professionnelles et institutionnelles d'exercice de la recherche. C'est un point évidemment très sensible. Est-ce qu'il y a une structure optimale des carrières et le poids des incitations monétaires au sens large, je veux dire, les scientifiques ne sont pas les mieux payés des brillants talents que nous essayons d'obtenir et de créer, loin de là, mais en tout cas, dans les ressources, dans les incitations monétaires, il y a par exemple les moyens qu'on peut obtenir pour sa recherche, les fameux « packages ». Une question qu'on connaît bien ici au Collège de France, la qualité des conditions de travail. On mesure aujourd'hui l'expansion de la science par le nombre de mètres carrés qui sont créés, construits, d'équipements scientifiques. C'est une des mesures de l'expansion et de la puissance de telle ou telle nation ou région dans la production de la science. Mais il y a aussi évidemment le poids des incitations non monétaires. Ça, c'est un fameux sujet. Qu'est-ce que c'est que l'estime d'autrui, sa matérialisation dans des honneurs et des prix? Il y a quelques univers où on pratique beaucoup la distribution des prix. Et il y a, dans les sciences, cette incitation non monétaire sous condition d'incertitude qui est de pouvoir attacher son nom à des découvertes. On en a eu un exemple à l'instant même. Ces deux approches par les publications et par les carrières se sont récemment rejointes sur un certain nombre de problèmes essentiels. Quelles sont les variations de comportement au travail dans les sciences selon les différentes disciplines, qui est un grand sujet, vous en aurez un bel échantillon aujourd'hui et demain. Quelle est la structure optimale des équipes, puisqu'on travaille beaucoup en équipe, et des collaborations scientifiques? Est-ce qu'on peut se faire une idée de qu'est-ce qui vaudrait mieux mettre comme quelle association est optimale entre les scientifiques? Quel est le profil temporel de l'inventivité au long de la carrière des individus? Est-ce que tout commence très tôt ou bien est-ce qu'on a une chance de durer très longtemps pour produire? Est-ce que les travaux sont... Comment est-ce qu'on peut caractériser le caractère développemental ou disruptif de la recherche? Est-ce qu'on en a des indices assez précoces? Et enfin, quelle est la division du travail dans les équipes? Par exemple, un des grands sujets, c'est évidemment le déséquilibre entre la production de docteurs et les emplois scientifiques disponibles, ce qui engendre des files d'attente considérables de post-docs qui sont à la fois les futures mains et parfois trop longtemps les petites mains de la science. Et donc, le nœud gordien de la recherche, c'est celui-ci. Comment construire des carrières soutenables en régime de forte inégalité de performance et en présence d'outils scientométriques qui sont susceptibles d'amplifier ces écarts, puisque les acteurs du système de la science cherchent à allouer les ressources, à organiser les carrières et les collaborations de la manière la plus efficace possible, mais sous la pression de la compétition entre les pays, entre les établissements, entre les laboratoires, en cherchant à réduire un peu ou beaucoup, espère-t-il, l'incertitude sur les chances de succès, mais sans pouvoir évidemment disposer de l'équation parfaite qui assurerait de manière certaine la réussite d'une activité de recherche, notamment la plus ambitieuse, la plus originale, la plus disruptive, puisque plus elle est originale et peut se révéler disruptive, plus elle contiendra un coefficient d'imprévisibilité irréductible. Il y a donc ces technologies sociales et organisationnelles de réduction de l'incertitude sur le travail de recherche qui ont été développées de manière assez systématique, vous allez le voir, et qui peuvent avoir aussi le pouvoir d'amplifier les écarts de chance plutôt que de les diminuer. Voilà un sujet. Et donc, les questions à aborder, si vous voulez, c'est: qu'est-ce que c'est que le risque? Qu'est-ce que c'est que l'hubris de la loi de l'avantage cumulatif? Qu'est-ce que c'est que le rendement décroissant ou non de la chasse au talent scientifique? en période de mobilité élevée des chercheurs et de communication instantanée de la recherche et de course à la puissance scientifique par la mobilisation de ressources financières et humaines qui peuvent se concentrer dans certains endroits plutôt que d'autres, mais aussi grâce à une agilité académico-entrepreneuriale dont on a parlé hier soir dès la table ronde d'ouverture. Ce sont des questions qui sont essentielles et sur lesquelles la recherche a un certain nombre de choses à dire, mais certainement pas le dernier mot. Voilà le menu. Alors, voilà le premier thème qu'on explore, c'est dans le menu de la scientométrie, c'est les ressources. Ici, vous avez des données de l'OCDE qu'avec Colin Marchica dans mon laboratoire, on a remis en forme des données de l'OCDE sur la progression des dépenses des effectifs pour 1000 actifs dans un pays. Combien y a-t-il de chercheurs? La définition des chercheurs, elle est ici. Elle est assez large, mais elle est supposée permettre la comparabilité des professionnels engagés dans la conception et la création de nouveaux savoirs qui conduisent de la recherche, qui améliorent et développent les concepts, les théories, les modèles, les techniques, les instruments et le software et les méthodes opérationnelles. Et là, vous avez un certain nombre de pays, une sélection de pays, l'OCDE en noir. Vous voyez la Chine qui, pour 1000 habitants, vous imaginez rapporté à la taille démographique de la Chine, vous voyez la progression importante. Vous voyez le déclin de la Russie qui apparaît à travers cet indicateur. Et la France, en rouge, est là. Elle n'est pas si mal placée en termes de quantité de chercheurs pour 1000 habitants. Ici, vous avez les effectifs réels. Évidemment, ils donnent une toute autre image puisque la Chine est là et l'Europe est là, tout en haut. L'Europe, en tant qu'unité de nation, que totalité de nations est là. Ensuite, évidemment, c'est un ensemble de pays qui n'ont pas l'unité territoriale et gouvernementale de la Chine. Et les États-Unis sont là. Donc ce sont les trois pays, les trois ensembles leaders. Voilà ce qu'on peut voir à travers la question des ressources humaines, des effectifs de chercheurs. Et puis ensuite, on a une deuxième mesure qui est celle des dépenses R&D, qui est très conventionnelle. Heureusement, on a des indicateurs. Ici, la démographie ne joue pas tellement parce que les pays peuvent avoir des caractéristiques extrêmement différentes. C'est le pourcentage affecté en R&D, à la R&D par rapport au PIB d'un pays. Et vous voyez apparaître des petits pays qui ont des performances très supérieures à d'autres, comme Israël, quand on sait à quel point en Israël s'est développée une écologie de la science et de l'innovation depuis une vingtaine d'années, c'est très spectaculaire. La Suisse, visiblement des pays comme ça, ont mis la science et l'innovation en position de commande dans leur développement scientifique. Elles n'ont pas probablement d'autres, elles n'ont pas de ressources naturelles, elles ont des industries où elles sont plus faiblement industrialisée, la Suisse non, grâce à la chimie et à la pharmacie, mais voilà des pays qui ont une position de leader, et les données sont ici. Le Japon est une grande nation scientifique depuis longtemps et met beaucoup de moyens. Voilà, la France est ici, elle est à 2%. Nos administrateurs ont beaucoup plaidé et plaideront pour atteindre 3%, ce qui paraît être un seuil. Mais c'est un bon indicateur pour rappeler les fondamentaux de ce que c'est que la production de la science à l'échelle macro. Maintenant, nous allons examiner ce que c'est que la production de recherche. C'est donc l'output. Vous aviez l'input, les moyens humains et les moyens financiers. Qu'est-ce que ça produit au juste? Voilà les données sur période longue qu'on peut connaître. C'est une vision de la science comme croissance exponentielle. Elle porte essentiellement sur les articles. C'est le point majeur. Les articles sont ce qui est le plus facile à mettre en base. Et cette expansion est exponentielle, c'est-à-dire que à partir d'un moment clé qui est là, on peut même remonter beaucoup plus loin dans le temps grâce à un protocole très ingénieux de recherche qui est ici. On fait remonter ici l'analyse à 1650. les chercheurs ont pris la totalité de la production scientifique publiée entre 1980 et 2012 et ont regardé qu'est-ce qui avait été cité antérieurement pour remonter en quelque sorte le temps et voir comment se distribuaient les dates de citation de travaux antérieurs en faisant l'hypothèse que ça pouvait être un reflet de ce qui avait été produit effectivement. C'est une tentative, comme toujours. On expérimente, on a des outils, on expérimente et on fait évoluer la connaissance. Elle peut être soumise à débat. Et ils ont montré que cette expansion, elle a des phases et que, évidemment, la dernière phase est là et elle correspond davantage à cette période-là, qui est ici, à partir de 1900. Et vous voyez la croissance exponentielle, notamment la pente de l'expansion. Exponentielle, ça veut dire que ça double, la quantité de publications double tous les 8 à 10 ans. Et la période clé, c'est ici, parce que la pente est devenue très raide, évidemment, et la production devient considérable. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on produit certes des connaissances, des publications, mais est-ce que les idées sont aussi nombreuses ? Et des chercheurs en scientométrie, je reviens à cet article que je citais en introduction, ont cherché à savoir ce que c'était que les idées. Ils ont une définition, je ne peux pas détailler, mais ils ont une définition à partir de l'analyse des titres d'articles et de la variété des titres et de ce qui apparaît ou de ce qui est simplement répété comme un élément de concept qui figure déjà, et où est-ce que c'est nouveau. Et leur hypothèse, c'est que pour la même période, 1900 et jusqu'à 2018, c'est plutôt une croissance linéaire qu'une croissance exponentielle. Autrement dit, il y a un vrai décalage entre une production énorme de textes et de publications, d'articles, et ce qui alimente le front de la recherche de manière incertaine, mais qui est soumis à débat et discussion. Voilà une vision rapide de ce que c'est que la croissance. Alors, on peut faire l'exercice dans un document que vous pouvez vous procurer. Toutes ces données sont essentiellement disponibles par l'accès aux bases scientifiques. L'HCERS a fait un travail sur la production scientifique, donc sur 2000 à 2016, mais en faisant un calcul intéressant qui est, et si nous regardions ce que produit l'expansion de la publication en raison de la multiplication des revues. Voilà les données brutes, c'est le nombre de publications qui augmente, mais si nous maintenons constante la population des revues, autrement dit, nous ne prenons que les publications qui figuraient déjà dans les revues qui existaient en 2000, voilà ce que c'est que l'expansion. Donc l'écart, évidemment, il est là, c'est-à-dire la création et la multiplication de revues de qualité très variable. Les plus anciennes prétendent souvent être les meilleures, mais pas toujours, évidemment. Et il faut créer des revues pour absorber de nouvelles connaissances et de nouvelles interdisciplinarité, mais il y a aussi beaucoup de trafic et de commerce de la revue. On reçoit scientifiques, on reçoit tous quantité d'appels à devenir des éditeurs de revues nouvelles qui sont plus ou moins des opérations commerciales, parfois, enfin bon. Et voilà, ça c'est la première, et voilà ce que c'est que la rivalité entre les deux grandes nations leaders aujourd'hui, qui sont les États-Unis et la Chine. Voilà la production scientifique des États-Unis en termes de nombre d'articles produits et avec le même calcul en termes de revues. Et voilà la production de la Chine en bleu. Vous voyez que la Chine progresse très rapidement et le comptage démarre en 2000. C'est une assez bonne date d'ailleurs parce que le décollage chinois date des années 90 et s'est accéléré dans les années 2000 avec le grand plan chinois. J'étais à Singapour, un représentant de l'Académie des sciences de Pékin disait « Et si nous ne sommes pas les leaders en 2025, nous serons les leaders en 2030. » Le plan est établi comme ça, en tout cas pour un certain nombre de disciplines dans lesquelles ils mettent des moyens considérables, l'ingénierie, la biologie, les sciences, les neurosciences, les sciences de communication, et les technologies très avancées, vous le savez. Voilà le tableau des publications en grand, en masse, si vous voulez. Maintenant, on peut aussi le décomposer par discipline et regarder le poids des disciplines dans la production de sciences. C'est un tableau qui est très important, ce qui permet enfin d'arriver à cette différenciation des différentes disciplines de la science. Vous voyez que la recherche médicale figure très haut dans la production de sciences en termes d'articles. C'est la discipline, l'ensemble des disciplines les plus actives. La chimie vient en second, l'engineering presque à égalité. La biologie fondamentale est ici, puis la physique. Et voilà. Et les mathématiques sont là. Les humanités, au sens large, sont là. Il faudra toujours faire attention dans les humanités, quand on cite les humanités, les arts, les lettres, les sciences humaines, au fait que les bases internationales probablement sous-estiment assez sérieusement la production dans ces secteurs-là des humanités, parce que les revues sont moins bien représentées dans les grandes bases de données. Souvenez-vous de ce point, qui, je ne vais pas le répéter sans arrêt, mais c'est très important à garder en mémoire. Et on ne donne pas ici ce qui est la multidisciplinarité, c'est une précision ici. Mais voilà le tableau, et avec des indications sur les différentes périodes et les points qui représentent la situation en 2000 et le triangle, la situation en 2016. Vous voyez l'expansion, par exemple, de l'engineering, qui est très important et sur lequel les Chinois ont une contribution énorme. Je crois que la moitié des docteurs en ingénierie formés aux États-Unis dans les années 1990 étaient chinois. Est-ce qu'ils sont tous repartis ? Pas tous, mais une partie. Voilà. Et vous avez ici les pays qui contribuent. Et vous avez les deux leaders, les USA et la Chine sont là, et avec une avance énorme par rapport aux autres pays, rien que sur cet indicateur de production d'articles dans les 20 premiers pays. Et le reste du monde est là. La totalité des autres pays produisent moins d'articles scientifiques que les États-Unis. Voilà une distribution aussi d'inégalités « between countries », comme on dit quand on fait des analyses d'inégalités, entre les pays. Tout ça était la vision d'ensemble, macro. Maintenant, on sait qu'il y a des inégalités, comme je l'ai dit en introduction, extrêmement importantes. Et je voudrais mentionner trois mécanismes remarquables dans notre regard sur la production scientifique. Je l'ai dit, la production scientifique augmente exponentiellement. Le nombre d'articles double tous les 8 à 10 ans. La majorité de la production de recherche est le fait d'une minorité de chercheurs. C'est établi. Et c'est une minorité encore plus étroite de publiants qui reçoit la grande majorité des citations d'articles. Leurs résultats sont sélectivement incorporés dans le mouvement de la science parce qu'ils sont jugés utiles, ces articles, à endosser ou à critiquer, ce qui est la fonction de base, normalement, de la citation. Le jeu compétitif de la science crée donc une énorme distorsion. Pour entrer dans un jeu risqué, au vu des écarts de réussite, il faut certainement, pour chaque scientifique, surestimer ses chances de succès. C'est une sorte d'hubris motivationnel. Si je ne pense pas que je pourrais faire des découvertes formidables, je ne vais peut-être pas m'aventurer dans un jeu aussi risqué. La production publiée est absorbée, mais très sélectivement, dans le front de la recherche. On peut dire que l'absorption est une leçon d'humilité. Après l'hubris motivationnel, il faut aussi être très humble, parce que le but de produire la recherche, c'est qu'elle soit incorporée dans la recherche des autres, et que votre meilleur espoir, c'est d'être dépassé, et non pas d'être accroché à votre savoir comme quelqu'un qui est accroché à sa cagnotte. C'était, je crois, une comparaison de Bachelard. Donc, il ne faut jamais oublier que la citation, c'est la conversion des outputs, publié c'est un output, en input. Et de ce point de vue-là, la connaissance, c'est ce qu'on peut appeler à la fois un bien public, puisque quand on publie, le mot public est dans le mot publication, et un bien non rival. Si je lis un article, je n'empêche pas quelqu'un d'autre de le lire, mais c'est aussi un bien essentiellement intermédiaire. Il y a toujours l'espoir que le monde s'arrête à mon modèle et que j'ai découvert la vérité indépassable, mais ça, c'est une illusion naïve peut-être de l'enfance. Et donc, ça, la réalité est une leçon d'humilité pour chacun des membres de la communauté scientifique. Espérer être absorbé, recombiné et dépassé. La distribution extrêmement asymétrique de la productivité des chercheurs en nombre d'articles publiés et de la réception qu'ils reçoivent, c'est-à-dire les citations, ce sont des faits établis depuis longtemps. J'ai cité Lotka ou Price. Price donnait une définition de ce problème. C'est une loi de puissance. Le nombre de scientifiques qui produisent N articles est à peu près proportionnel à 1 sur N au carré. Autrement dit, sur 100 auteurs qui publient au moins un article, 25 en produisent seulement 2 et 11 en produiront 3, etc. Et si on classe 1000 articles ou 1000 scientifiques d'une discipline donnée par ordre décroissant de citations de leurs travaux par des collègues, la moitié du nombre total de citations se concentre sur 32 articles ou auteurs, soit la racine carrée de la population totale d'articles ou d'individus considérés. Avec cette équation qu'on pourrait trouver infernale, l'augmentation de la production de recherche de valeur, entre guillemets, c'est-à-dire qui est citée suffisamment, serait de 5% seulement si on double le nombre de scientifiques. C'était l'idée avancée par Derek de Solla Price. Mais quand on lui disait « Alors, et si on diminue de moitié la population des scientifiques, est-ce qu'on ne perdrait pas, est-ce qu'on perdrait vraiment de la recherche de valeur ?» Price répliquait sagement « Le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quels articles, quels livres, quels concepts, quels individus rejoindront le noyau dur de la production de qualité ou l'élite des scientifiques. Autrement dit, il faut du temps et il faut des carrières et tout n'est pas mis en équation à l'origine. C'est une sage remarque, en effet. Et on peut remarquer, peut-être ça apparaîtra maintenant dans la suite de l'exposé, que la scientométrie est parfois tentée de faire des prédictions pour réduire cette incertitude et ces délais. Alors voici quelques preuves graphiques rapides de ce que j'avance sur les inégalités. Vous voyez ici la courbe de distribution des citations, des financements et des articles. C'est un travail de chercheurs canadiens, La Rivière, Macaluso, Archambault, Gingras, sur la production de recherche sur 7 ans des chercheurs québécois. Et vous voyez, la distribution est toujours la même, c'est ce qu'on appelle une courbe de Pareto. 20% des individus publient à peu près 60% des articles, mais obtiennent 80% des financements et des citations. Et nous avons fait nous-mêmes ici, au Collège de France, un travail sur l'ensemble des universitaires français entre 1984 et 2014. Nous avons une base de données sur les carrières de ces universitaires. Nous avons analysé leur production. C'est une tentative de rapprocher le travail sur les carrières du travail sur la production, ce qui est assez rarement fait. Et avec Colin Marchica et Yann Renizio, nous avons constitué des bases pour les sciences humaines et sociales qui sont plus larges que les simples bases internationales du type Web of Science. Nous avons pris aussi la totalité des livres disponibles sur les bases de référence de la BNF. Nous avons pris d'autres bases françaises de publication d'articles. Mais nous avons aussi une équation d'inégalité qui ressemble beaucoup à celle-ci, avec une part d'individus, je vais y revenir tout à l'heure, qui publient pas du tout dans nos bases de données. Nous ne voyons jamais apparaître une seule publication. Peut-être nos bases sont insuffisantes, mais dans l'état où sont nos bases, voilà ce qui arrive. Et ça, c'est vrai pour les sciences humaines et sociales, et ça, c'est vrai pour les sciences. Le coefficient de Gini, c'est-à-dire d'inégalité, est un peu moins grand pour les sciences que pour les lettres et sciences humaines, en raison notamment de la moindre proportion de non-publiants. Ici, vous avez les différences entre les différentes disciplines dans le travail des collègues canadiens et repris par Vincent Larivière, qui est un des très bons bibliomètres. C'est une très bonne école au Canada, je veux dire, dans ce genre de travaux. Et vous avez ici les différentes disciplines. Je ne vais pas détailler beaucoup, mais elles ne se situent pas tout à fait de la même manière. Notamment, il faut faire à nouveau attention à la sous-représentation certainement des humanités parmi les données sur la non-publication pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc il faut sans arrêt corriger l'information et le matériau empirique ou avoir l'esprit qui ne dit pas tout. Ici, vous avez une explication possible de l'intensité de citations qui peut être variable selon les disciplines, c'est que les différentes disciplines ne citent pas autant d'articles, n'ont pas autant de références dans leurs articles. Voilà la situation dans les humanités. Les humanités sont plus... ce sont les nombres moyens de citations par article dans les différentes sciences. Vous voyez que les humanités se situent ici sous les conditions que j'ai indiquées, les sciences sociales ici et les sciences biomédicales. Autrement dit, la communauté est beaucoup plus nombreuse. Il faut le rapporter aussi à des problèmes de taille, mais aussi de comportement dans l'appropriation et l'absorption de la connaissance et de délai d'appropriation. On absorbe beaucoup plus vite la connaissance et elle est beaucoup plus vite dite dépassée dans les sciences biologiques et biomédicales que dans les sciences humaines de toute façon. Et est-ce que toutes ces différences de disciplines créent du bruit, en quelque sorte, dans la distribution de Pareto ? C'est une tentative qui a été faite dans un article de PNAS, la Proceedings National Academy of Science, de 2008, qui est de normaliser par le nombre moyen de citations par article dans la discipline considérée. Et vous voyez que la distribution, elle est représentée de manière inverse, mais elle dit la même chose. Elle dit qu'il y a effectivement une loi de puissance qui agit ici dans toutes les disciplines. Donc ça peut avoir un caractère de grande généralité. Garfield, l'inventeur de la bibliométrie, a produit beaucoup d'articles dans lesquels il cherche à classer les articles par le nombre de citations, et il remarque notamment que la moitié des articles dans la base de données qu'il a constituée ne sont jamais cités. Donc ça, c'est une vision qui peut être assez pessimiste, c'est-à-dire que la visibilité du travail, elle est extraordinairement sélective. Évidemment, un individu n'est pas égal à un seul article, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, mais une partie de la production est une production qui se dissipe sans être absorbée, ou du moins absorbée par la citation explicite. Et nous-mêmes, nous avons fait... Ça, c'est un travail, pardon, de Gingras de La Rivière, que j'ai cité tout à l'heure, qui regarde sur les chercheurs canadiens. Vous voyez au moins un papier, au moins une citation. Vous voyez que ça décroît en fonction des différentes sciences sous la contrainte de valeur des bases de données. Nous-mêmes, ici, au collège, on a fait, dans la recherche que nous menons sur les universitaires, on a fait le bilan de ce qui est, de ce que peut être, ce qui est appelé un non-publiant. Et vous voyez ici le taux de non-publiant, il varie entre 20 et 30% dans la communauté de l'ensemble des universitaires français. Chaque année représente une génération, et on regarde sur la durée ce que les gens qui sont entrés dans le métier en 1990 ont publié durant toute la période où ils ont été dans le métier. Évidemment, à la fin de la période, on leur laisse un peu moins de chance puisqu'ils sont entrés plus récemment, mais on leur laisse quand même 10 ans, 5 ans avant d'entrer et 5 ans ou 10 ans après être entrés. Et il y a effectivement ce taux de non-publiant est moins élevé dans les sciences que dans les sciences humaines et dans les lettres, sous les contraintes, encore une fois, de base de données, mais la nôtre est quand même plus large. Et une des explications possibles, c'est évidemment l'activité scientifique, elle est souvent distribuée entre plusieurs tâches. Il y a des tâches, par exemple, d'enseignement et des tâches de recherche pour les universitaires dont je viens de parler. Eh bien, les performances dans les deux activités sont extraordinairement différentes. Vous avez vu que la performance de recherche, c'est-à-dire la publication, l'intensité de publication, en fait, elle est parétienne, il y a une très grande inégalité, tandis que la performance d'enseignement, qu'on peut identifier à travers les évaluations qui sont données par les étudiants, après tout, les citations, ce sont des évaluations données par les collègues à leurs collègues pour dire je t'absorbe en te nommant dans mes articles ou je ne t'absorbe pas. Et dans l'enseignement, c'est les étudiants, dans un certain nombre de pays, les étudiants notent leurs enseignants. Et vous voyez que la distribution, elle est gaussienne. En fait, beaucoup de gens sont distribués autour de la moyenne. Alors, la moyenne peut être décalée vers une évaluation assez favorable. C'est un échange entre l'enseignant et l'étudiant pour dire « je te note bien, tu me notes bien ». Mais ça n'est pas la seule explication. On peut penser que la qualité des enseignants est bonne, et même très bonne, mais en tout cas, elle est distribuée de manière très différente de ça. Et ça, évidemment, l'acte de recherche et l'acte d'enseignement sont en partie complémentaires, mais en partie seulement, notamment au niveau doctoral, où ils sont essentiellement complémentaires. Il faut produire les générations d'après. Mais en niveau infradoctoral, la situation est plus compliquée, évidemment, parce que l'enseignement demande du temps et toutes les charges associées à l'enseignement demandent du temps, etc. Bien heureux le chercheur qui n'a que la recherche sur son agenda, évidemment. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur ? Vous avez compris que dans un monde où on distribue, les inégalités sont aussi fortes, évidemment, la question c'est qu'est-ce qui a donc de la valeur et comment le détecter ? Et il s'est créé, évidemment, des indices qui sont complémentaires de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur ça vient de la même source de l'HCERS, qui produit donc les articles, le top 1%. On parle beaucoup des 1%. En ce moment, depuis quelques années, dans d'autres univers. Mais ici, c'est le 1% qui est plutôt signalé comme un indicateur d'excellence et qui produit donc le 1% des publications les plus citées dans les grands pays. Et vous voyez, la distribution est de nouveau avec des leaders, mais pas exactement la même hauteur d'écart. Les États-Unis restent le pays majeur. Et la Chine a augmenté sa position. Et le triangle vous montre que la situation évolue assez rapidement dans le milieu des années 2010. On peut aussi, évidemment, choisir un indicateur un peu moins sélectif, c'est-à-dire les 10%. Est-ce que les articles figurent dans le top 10% des articles les plus cités ? Et la distribution des pays est à peu près comparable selon les deux indices. Et c'est aussi un indice qui est utilisé par exemple, une compilation de données très intéressante de la National Science Foundation aux États-Unis qui publie chaque année un ensemble de tableaux sur la production scientifique. Et vous voyez que les États-Unis figurent ici. Bon, heureux pays. L'Union européenne est ici, dans ce top 1%. Donc, c'est une forme de palmarès. La culture des classements et des palmarès est très présente dans le monde de la science et de la recherche et aussi de la politique de la science. Et la Chine augmente sa part. Ici, elle est en couleur ocre clair. Vous voyez la situation. Et vous pouvez adopter encore une autre mesure, c'est ce qu'a fait Reinhild Wegelers, une chercheuse à Louvain, qui regarde si l'indice, elle crée un indice de si c'est plus de 1, vous êtes au-dessus en intensité ou en probabilité d'être dans le top 1%. Si vous êtes en dessous, vous êtes en situation moins favorable. Et là, on le décompose par discipline et on mesure l'écart entre 2002 et 2012. Et vous voyez, je ne vais pas commenter longuement, mais par exemple, en engineering, j'ai parlé de la Chine, elle augmente sa position assez rapidement, 0,52 à 0,73, mais elle n'est pas encore dans la situation où est, par exemple, les États-Unis, qui ont effectivement des performances assez élevées en computer science, par exemple. Ils sont leaders de manière très, très nette et ça progresse. En mathématiques, par exemple, on voit que l'Union européenne est bien située. C'est une des grandes disciplines. Les chiffres sont aussi... on progresse et les chiffres sont favorables aussi en physique, par exemple. Mais je ne vais pas tout détailler. Il faut avoir à la fois un œil sur ces indicateurs. Et évidemment, ça ne se transforme pas en information disponible dans le travail quotidien. Jusqu'ici, j'ai parlé de la recherche à travers des publications et des individus qui sont auteurs de publications, mais la recherche, c'est une affaire de collaboration. On peut étudier, évidemment, beaucoup ce que c'est que la collaboration, quelle est son intensité et quel est son mécanisme. La production de science en collaboration, elle a beaucoup augmenté et je donnais tout à l'heure l'article Science of Science. Vous voyez qu'il est le produit d'une intense collaboration et dans des disciplines très différentes. Il y a des disciplines de l'engineering, il y a des disciplines de la sociologie, il y a des disciplines de cancer system biology, il y a computational data, social science. Vous voyez, c'est un monde très interdisciplinaire, mais avec une intensité collective de travail qui est beaucoup plus élevée qu'auparavant. Ici, vous avez un autre article de Science of Science qui a fait appel de même à beaucoup de chercheurs et à des disciplines et des affiliations extrêmement variées. Déjà, mais j'ai jusqu'à... Ah oui, j'ai jusqu'à 11h30. 15. Bon, alors je vais aller plus vite. C'est une affaire de collaboration. Vous le voyez ici, les indices sont présents. Le nombre d'auteurs augmente aussi, mais de manière différente. Et les collaborations internationales sont évidemment beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Donc la science, elle n'a pas de patrie, elle est profondément internationale. Et le mouvement des individus dans la science est un sujet absolument fascinant qui nous donne une toute autre image, une lecture tout autre de la migration. Et on peut donner des indices très nombreux des collaborations internationales en quelque sorte du commerce, de la balance commerciale des échanges à travers des données comme celle-ci, par exemple, que je ne peux pas commenter puisque j'arrive au bout du temps. Il y a évidemment une grande question qui est quel est le bénéfice exact de ça ? Il me reste vraiment plus de temps du tout. Le bénéfice, c'est évidemment d'avoir plus d'impact, c'est ce qui est montré là-haut, et ensuite d'avoir peut-être une probabilité. Mais plus grande équipe, est-ce que ça veut dire plus de potentiel de recherche ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a aussi, et c'est un des travaux que font les scientifiques quand ils étudient leur propre discipline, par exemple, est-ce que la recherche disruptive n'est pas le fait plutôt de petites équipes que de grosses équipes ? C'est un des grands sujets et ça a fait l'objet de publications et donc de tentatives en quelque sorte de soulever le capot de la recherche et de voir comment ça tourne au juste en manipulant toutes les variables clés de la situation. Un point qui est essentiel, c'est ensuite que la recherche en collaboration ne se fait pas n'importe comment, elle se fait par appariement sélectif, c'est-à-dire les individus qui travaillent bien ou qui se repèrent et s'identifient comme productifs ou inventifs se mettent ensemble pour collaborer. C'est une loi assez puissante et très difficile à contrer. On se sent plus porté, plus stimulé quand on travaille avec des gens qui sont stimulants, évidemment. Et les bénéfices sont ici. Les probabilités de travailler quand on divise les équipes et la collaboration par classe d'inventivité et de réputation, on voit les écarts et les bénéfices de citation. Et qui valent aussi selon qu'on travaille au sein de la même institution ou qu'on travaille entre différentes universités et avec le même principe de lecture différenciée et stratifiée. Voilà, donc, mais tout ça ne fait qu'ajouter un mécanisme supplémentaire, un levier supplémentaire à des inégalités de ressources qui sont là et qu'on voit un article d'un collègue sino-américain qui s'appelle Undemocracy, Inequalities of Science montre à quel point les financements et l'endowment, le coefficient de Gini a augmenté spectaculairement. Autrement dit, les inégalités ont augmenté. Donc, je vais terminer sur la question des dérives possibles de la bibliométrie. Évidemment, la bibliométrie est utile. Quand vous faites une recherche sur des articles, vous voyez qui est cité et c'est très utile pour vous de regarder et de faire vos propres recherches en disant « Tiens, je vais aller regarder dans le détail qui a cité un article qui m'intéresse pour moi-même rebondir. » Mais il y a aussi le rappel à l'ordre. Les scientifiques savent aussi qu'il ne faut pas jouer avec ces instruments de manière inconsidérée. Et donc, James Heckman, par exemple, a dit « Il y a une tyrannie des top 5 en économie, des grandes revues qui pensent qu'elles publient les meilleurs articles, ça n'est pas vrai, je peux le montrer empiriquement. » Ou bien Paula Stéphane, qui parlera demain, et Alain Wegler s'en dit, mais la nouveauté, pour être absorbée, elle prend du temps. Et le temps, on n'en a pas une équation si simple. De même, tiens, Serge Haroche est là. Quand on regarde quel est l'article qu'il a publié et qui a reçu le plus de citations, il n'est pas au début de sa carrière, il est plus tard dans sa carrière. Il a reçu beaucoup de citations de ses articles au fil de sa carrière, mais celui qui a eu un impact très élevé, c'est beaucoup plus tard. Il pourrait nous en parler. Mais ce n'est, par exemple, pas le cas pour un autre scientifique. Autrement dit, il y a des comportements dans les sciences et il y a des tempos de carrière qui sont extraordinairement variables et il faut le garder à l'esprit. Donc, on peut faire appel à et prier les collègues de faire attention. Et il y a des manifestes pour dire ça suffit, l'impact factor des revues, c'est une information, mais ça n'est pas un indice contraignant qui va vous assurer à coup sûr la qualité d'un article ou d'une revue ou d'un collègue. Voilà. Et donc, on peut prédire, on peut décrire, j'ai montré qu'on peut décrire, on peut essayer d'expliquer. Là où ça commence à devenir un peu plus délicat, c'est prédire. Est-ce que, en composant telle ou telle équipe, je vais avoir une certitude de la production, d'une meilleure chance de réussite? Là où ça devient plus difficile, c'est quand dans les mains de toutes les parties prenantes, les évaluateurs, les comités, les producteurs de politiques scientifiques, on a une sorte d'instrument de prescription qui dit « pour faire de la science, il faut ça ». Et les grandes bases les grandes revues scientifiques ne sont pas les dernières à prescrire. Quand vous recevez un mail qui vous dit « Nous avons observé votre équipe de recherche et si vous ajoutiez tel chercheur, vous augmenteriez le potentiel ou l'impact de votre travail », ça veut dire que vous êtes sous observation et que ces instruments-là, s'ils existent dans les mains des revues, ils vont évidemment exister dans les mains d'autres parties prenantes de la production de recherche. Or, la recherche, c'est d'abord une écologie de différenciation horizontale du travail pour essayer d'obtenir l'originalité, recombiner les connaissances, rapprocher des disciplines qui ne l'étaient pas, avant qu'il y ait un autre jeu qui soit la différenciation, le pivotement vers une différenciation verticale. Certaines connaissances sont plus absorbées et sélectionnées que d'autres. Voilà ce jeu. Mais si on ne maintient pas la tension entre les deux, à coup d'outils prédictifs, on va détruire une partie de ce qui fait l'essence même du travail, qui est la prise de risque et le travail sous incertitude. Merci.